Le christianisme, c'est souvent considéré comme une religion occidentale. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, hein, votre religion occidentale. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un moment de l'histoire où le christianisme redevient un peu plus ce qu'il était au tout début. Je ne sais pas si vous avez une idée. Alors, les chrétiens évangéliques, dans les chrétiens évangéliques, si vous prenez au hasard un chrétien évangélique dans le monde, combien de chances vous avez que ça soit un Français ? Une chance sur mille. Une chance sur mille. Alors, j'ai pris les chrétiens évangéliques, bon, parce que pour le, c'est une confession de, une dénomination de personnes qui se disent chrétiens et qui s'engagent. Voilà, c'est Dieu qui connaît les cœurs. C'est lui qui sait qui est vraiment chrétien dans le monde. Mais ça donne déjà une idée. Même l'Église catholique aussi aujourd'hui, elle est majoritairement en Amérique du Sud. Un chrétien évangélique sur 12 est nigérian. 1 sur 10 est chinois. Il y a 100 fois plus de chances de tomber sur un chrétien évangélique chinois que sur un chrétien évangélique français. Ouais, 100 fois. Ça vous fait réfléchir, hein ? Moi, ça me fait réfléchir, ça. Et en plus, voilà, c'est une église qui grandit en Chine. Hein. Et voilà, pour donner un ordre de grandeur, il y a plus de 80% des chrétiens évangéliques qui sont ni en Europe, ni en Amérique du Nord. Donc là, ça vous donne une idée. Voilà. Est-ce que c'est une religion occidentale ? En tout cas, en 2019, non. Et en fait, au tout début, vraiment au tout début, c'était 100% de juifs messianiques. Alors, j'ai commencé à essayer de chercher le nombre de juifs messianiques. C'est pas évident, en fait, à trouver. Parce qu'on ne se déclare pas forcément juif messianique. Alors, il y a des églises qui sont intégralement de juifs messianiques. Il y en a qui sont des origines juives ici et qui voilà, qui sont pas comptabilisés. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est très loin des 100% de juifs messianiques dans l'Église. Et surtout, au tout début, ils étaient tous en Judée, quasiment, tous en Judée, à Jérusalem. On pouvait dire, jusqu'à un certain point, jusqu'au passage auquel on va arriver aujourd'hui, que le christianisme, c'est une secte juive. C'est comme les pharisiens, les zélotes, les hérodiens, etc. C'est un petit parti juif. Et voilà, du coup, au début, c'était vu un peu comme ça. Mais il y a un moment, et c'est le passage qu'on va voir aujourd'hui, au chapitre 10 des Actes, il y a ce changement, ce moment charnière où il va s'ouvrir à toutes les nations, qui va devenir... Il va passer d'être une petite secte juive à un mouvement multiculturel et planétaire, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, on suit aujourd'hui notre série de quelques prédications, en Actes, oui, dans les conversions qu'on voit dans Actes. Il y a deux semaines, Mamie nous avait parlé de Philippe et de l'eunuque éthiopien. La semaine dernière, c'était la conversion de pas n'importe qui, Paul de Tarse, hein, excusez du peu. Et aujourd'hui, on va parler de Corneille. Alors, c'est l'histoire, ce passage, c'est à la fois un moment historique où il se passe des choses et on va, dans une deuxième partie, un peu voir quel est ce message qui change le monde et qui change le christianisme en particulier, qui crée le christianisme même. Et puis, dans un premier temps, on va juste regarder qui sont ces hommes, Pierre et Corneille, parce que c'est aussi l'histoire de deux hommes, Dieu qui agit dans la vie de deux hommes. Alors, je vais lire... Alors, le texte est long, hein, on va lire tout le chapitre 10, mais je vais le lire en deux fois. Pour qu'on puisse mieux s'en souvenir. Alors si vous avez votre Bible sous la main, n'hésitez pas à l'ouvrir en Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit trois fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'esprit lui dit « Il y a trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ses hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent « L'officier romain Corneille est un homme juste et il craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut pas déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Alors, on va s'arrêter là pour l'instant, à peu près à la moitié du passage. On a vu donc ces deux personnages, Pierre et Corneille, et cette rencontre. Alors déjà un peu pour situer le contexte, hein, on va présenter ces personnages et montrer à quel point cette rencontre est un peu étonnante. D'une part, Corneille, lui, il était centurion romain. Il nous dit un officier, et le mot c'est voilà, centurion. Donc c'est un officier d'une certaine importance, hein, plus d'une cohorte italique, donc italienne, c'était pas n'importe qui. Il avait probablement 80 ou 100 personnes sous ses ordres. Et donc pour Pierre, il s'agit d'un occupant. À ce moment-là, la Judée était contrôlée par les Romains, et depuis Césarée, depuis cette ville même où séjournait Corneille. C'était un peu le quartier majeur, quartier principal des forces romaines en Judée. Donc, pour Pierre, normalement, il devrait voir là un envahisseur et en plus un païen, c'est-à-dire quelqu'un qui adorait de nombreux dieux. Quelqu'un qui, comme toutes les religions de l'époque, la plupart, ils adoraient plein de dieux dans plein de temples différents. Et ça, c'était assez méprisé par les juifs. D'ailleurs, ce mépris était réciproque. Les Romains avaient un certain mépris pour les juifs. De temps en temps, il y a eu des persécutions. On a vu notamment Ponce Pilate, qui lui aussi habitait Césarée avant cette histoire. Il a plusieurs fois provoqué les juifs assez gratuitement. Et le peuple était réprimé. S'il y avait une garde, c'est qu'il y avait aussi des résistants à cette époque-là. Donc voilà, a priori, c'est plutôt un adversaire. Mais cet homme, il nous a dit qu'il craignait Dieu. Et ça, c'est un terme qui est assez spécifique. On le retrouve dans Actes plusieurs fois. Les craignants Dieu, c'était des personnes qui étaient effectivement non-juives, mais qui avaient un certain respect, une certaine pratique de la religion juive. Ils n'étaient pas complètement convertis, et ça, c'est en général marqué par la circoncision, mais ils avaient un certain accord, ils voyaient que ce Dieu des Juifs, il avait quelque chose de différent. On voit qu'il est donc craignant Dieu, qu'il est généreux, il est pieux dans ce qu'il fait, il est généreux pour le peuple, et il prie. Il prie. Plusieurs fois, on voit dans ce chapitre 10 et au chapitre 11, voilà, il est répété, cet homme priait. Et d'ailleurs, l'heure à laquelle l'ange vient le voir, c'est une heure où habituellement les Juifs priaient à l'époque. Donc c'est à l'heure de la prière que Dieu lui envoie cet ange qui lui dit « Fais venir Simon-Pierre qui est à Jaffa. » Et on pourrait se dire « Bon, en fait, il est bien en fait ce Corneille. » Parce que dans notre façon de voir le monde, on pourrait dire oui, enfin, il a fait les efforts, il est quand même généreux, il est respecté, il est pieux, il fait même des actes religieux. En fait, finalement, il pourrait se dire c'est bon, il n'a plus besoin de faire d'efforts, non? Et en fait, lui-même, Corneille, n'est pas du tout dans cet état d'esprit quand il rencontre l'ange. Premier truc qu'il a, c'est de la crainte. Il a peur quand il voit cet ange. Et il réalise, lui, que en fait, Dieu ne lui doit rien. Dieu est terrible. Et il se rend compte que lui-même, malgré tout ce qu'il fait, il est quand même en danger devant la pureté de Dieu. Et du coup, sa réaction, c'est qu'il obéit. Il obéit et il envoie ces trois personnes. Alors il aurait pu inventer plein de prétextes. Il pourrait dire, je ne pourrais pas moi-même y aller, je ne pourrais pas trouver quelqu'un ici pour que ça aille plus vite. Non, il va devoir attendre 2 jours pour faire venir Pierre. Il va envoyer trois personnes de confiance. On peut envoyer un messager, hein, trois personnes. Ensuite, on a Pierre. Alors Pierre, à ce moment-là de Actes, toute la première partie d'Actes, on voit que c'est l'apôtre, donc le disciple de Jésus-Christ, hein, envoyé par Jésus-Christ, c'est ce que signifie apôtre, celui qui était en première importance, celui qui prenait le rôle de leader la plupart du temps. Et lui aussi, il prie et il a une vision. Il prie, il a une vision, il est appelé et ensuite il obéit. Alors, moi ça me fait réfléchir, hein, quand j'arrive, je me dis, mais s'il y a un ange qui devait apparaître, quelle est la probabilité, hein, c'est mon thème du jour, quelle est la probabilité qu'il arrive à un moment où je suis en train de prier? Est-ce que je suis disponible pour écouter Dieu? Et est-ce que je suis prêt à l'obéir, à lui obéir? Quand il me dit quelque chose, est-ce que je suis prêt à lui obéir? Et ça va, on va voir que c'est en fait assez difficile pour Pierre de lui obéir, parce qu'il y a ce clash culturel. Il y a ce centurion romain qui est en face de lui, qui est un centurion, qui est romain. Et pour Pierre, c'est difficile de se dire, oui, alors je vais entrer chez lui. Ne serait-ce qu'entrer chez lui. Il faut une préparation, Pierre. Pourtant, avant ça, Jésus lui avait dit à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. Et puis lui-même, dans son attitude, Jésus était allé en face de la femme syrophénicienne, il avait rencontré un autre centurion qui avait la foi. Mais pour Pierre, c'est encore trop dur. Il y a toute une éducation, il y a toute une culture où on s'exclut en fait de ces autres. On est toujours dans des cultures qui s'excluent des autres. Hein. Ça se voit pas trop ce matin et je m'en réjouis. Mais toutes nos cultures, ça se définit souvent par rapport à les autres, ah non, eux. Des fois, c'est même ridicule, les gens se ressemblent tellement. Mais les groupes sociaux, on se construit souvent en opposition les uns aux autres. Et encore particulièrement donc, quand il y a ces différences de pratiques religieuses. Et pour les Juifs, c'était encore plus vrai parce que Dieu avait effectivement institué des lois de toutes sortes, des lois pour son peuple, et notamment des lois qui étaient en fait des règles de séparation. Une manière de se dire, vous êtes à part. Le mot pour dire à part, hein, dans la Bible, c'est saint. Vous êtes saint, je vous mets à part. Et dans ces règles de séparation, c'était des règles pour pouvoir éviter pour le peuple juif d'être contaminé par les pratiques des païens, et puis pour aussi mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la pureté de Dieu. Voir à quel point, waouh, en fait, Dieu, il est d'une pureté qui nous dépasse. Et avec ça, les juifs, au fur et à mesure des siècles, avaient rajouté des traditions pour essayer d'être sûr de respecter les règles, et rajouter des règles en plus. Au point que, bah, par exemple, la règle de j'ai pas droit de rentrer chez un païen, qu'énonce Pierre, hein, dans le passage qu'on a lu, bah, elle est arrivée après. On considérait à un moment que, en fait, vu que les païens, ils mangent de la viande impure, etc., bah, forcément, eux aussi, ils sont impurs, et quand on entre chez un païen, derrière, il faut se purifier. Et c'est là-dessus que Dieu va, entre guillemets, attaquer. Dans les lois les plus visibles, les plus explicites, de séparation, il y a le sabbat. C'était un peuple qui tous les samedis ne travaillait pas. Ça, voilà, une culture où on travaille tous les jours, les esclaves travaillent tous les jours. C'est pas forcément facile à accepter. Il y a la circoncision, bien sûr, on en a parlé. Et puis il y a les règles de séparation sur les aliments. C'est-à-dire, il y avait les aliments qui sont purs et les aliments impurs. Les aliments, ce qu'on dit cachers, et ceux qui ne le sont pas. Et c'est Dieu décide de toucher Pierre avec une image. Il arrive avec cette nappe qui vient du ciel, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament on utilise ce mot, et on imagine une grande nappe de lin avec tous les animaux de la terre, et donc bien sûr bah, avec beaucoup d'animaux impurs. Hein. La plupart des animaux sont impurs, dont les êtres humains d'ailleurs. Hein, c'est ça aussi le message. Bon, on ne mange pas d'êtres humains, tant mieux. Mais il y a donc tous les animaux de la terre en face de lui, et Dieu lui dit, hein, c'est même les catégories de la Genèse, hein, le bétail, les animaux sauvages, et puis même les oiseaux, et il dit, vas-y, mange. Et Pierre est choqué. Pierre dit, non, Seigneur. Non, Seigneur, bon, ça va pas ensemble, hein, non et Seigneur. C'est oui, Seigneur, normalement qu'on dit. Mais il est choqué, on ne peut pas lui demander à lui, juif, de prendre des animaux impurs. Même si, encore une fois, Jésus avait bien expliqué aux pharisiens, c'est pas ce qui rentre dans le corps qui rend impur. Mais ça prend du temps encore pour Pierre, et même Dieu doit lui faire la vision 3 fois de suite, lui répéter, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Le but pédagogique de cette loi, il est passé. Maintenant, on arrive à ce qui vient. D'ailleurs, il a bien compris hein, ce qui était pur, impur, Pierre. Hein. C'est imprimé. À peine la vision terminée, Pierre est perplexe. Il doit se dire, oh là là, qu'est-ce que je suis censé faire là maintenant? Il faut que j'aille à la boucherie. Mais Pierre, l'esprit l'appelle et lui dit, descends, il y a 3 hommes qui t'attendent. Il sait même, il ne lui a pas expliqué hein, d'ailleurs. Mais qui sont ces hommes? C'est des hommes non-juifs. Et là, il commence à connecter. Il dit, ah oui, je les laisse rentrer déjà chez moi, je les accueille chez moi, et puis derrière, il va les suivre. Mais moi, je trouve qu'à ce moment-là, il y a un truc, alors il y a le timing divin, c'est raconté comme un film, en fait, hein, on dirait un script. Hein, pendant ce temps-là, Pierre est en train de prier, les gens arrivent, enfin, c'est assez facile à lire, je trouve. Mais Pierre, derrière, on ne le reconnaît plus. Pour ceux qui sont familiers de Pierre dans les évangiles, Pierre, c'est un impulsif. C'est non Seigneur quoi. Quand il n'est pas d'accord, il le dit tout de suite. Quand il a envie de faire quelque chose, il le fait, même si c'est une bêtise. Mais là, il arrive, il se laisse conduire sur place. Bon, il reprend Corneille, mais il commence pas à faire un discours comme il l'a fait en acte 2. Il dit mais qu'est-ce que vous attendez de moi en fait? Et c'est là que les gens vont dire bah vas-y, parle ce que le Seigneur a dit de nous dire. Et en même temps, voilà, même s'il est hésitant et tout ça, il est obéi. Et c'est ça que j'ai envie qu'on retienne sur ce passage-là. C'est frappant comme, malgré le fait que ça le travaille, il y a ce passage même, on sent presque obligé de s'expliquer, en fait. Hein. Il dit au verset 28, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut pas déclarer aucun être humain souillé ou impur. » C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Personne ne lui a posé de question. Mais voilà, ça le travaille. Mais il commence à comprendre que Dieu n'est pas partial. C'est ce qu'il dit dans ces mots-là. Dieu va au-delà des apparences, au-delà de lui, il est occidental, lui, il est chinois, lui, il a tel et tel passé, lui, c'était plus clean, ou lui, c'était... Non, Dieu, il voit les cœurs, il nous voit tous, nous, tels que nous sommes. Et Pierre, il doit commencer à apprendre ça et à faire un peu abstraction de ses préjugés culturels. Le message de Dieu s'adresse à tous. Alors, il y a 2 choses qui me frappent dans cette rencontre de ces 2 hommes, Pierre et Corneille. D'une part, c'est que Dieu est à l'initiative. Dieu, il fait tout dans ce texte. Et en même temps, d'une part, il est à l'initiative, c'est lui qui donne les visions. Il dit, toi, tu envoies des gens par là, toi, tu vas avec eux et tu leur dis ça. Et il est vraiment au contrôle, et en même temps, d'un autre côté, il fait avec des hommes, il délègue, en particulier à Pierre. Ça, c'est quelque chose d'assez fort, quelque part, le plan de Dieu, il s'accomplit par des hommes. Il y a ce verset qui dit, mais qui entendra s'il n'y a personne pour l'annoncer? Et Dieu n'a pas choisi de déclarer à chacun, depuis le ciel, l'évangile. Il aurait pu le faire à Corneille, il a fait une vision. Il aurait pu dire, bon, bah, je vais t'expliquer Jésus-Christ, etc. Et de temps en temps, il fait des choses comme ça dans la vie de certaines personnes. De voir avec Paul, par exemple. Paul, on l'a vu la semaine dernière avec Jérémie. Voilà, une voix du ciel qui commence à expliquer des choses, mais pas tout. Il va après rencontrer des hommes qui sont missionnés par Dieu pour le conduire, pour lui expliquer ce que Dieu a fait. Et d'ailleurs, Dieu a tellement bien préparé les choses, ça on va le voir dans la suite, quand Pierre commence à peine son message. Alors là, le Saint-Esprit descend sur toute l'assistance et tout le monde commence à louer Dieu. Donc c'est quelque chose de très fort quand Dieu prépare les choses. Et la question c'est, est-ce que nous, on est prêt à lui obéir et à rentrer dans ses voies? Est-ce qu'on est disponible pour ça? Et la deuxième chose qui va avec, c'est que Corneille et Pierre obéissent. Ils étaient en attente d'une direction de Dieu, ils étaient en prière. Et même si pour l'un ça nécessite d'attendre, même si pour l'autre ça lui demande de faire des efforts, ils prient et ils obéissent. Alors on arrive à notre deuxième partie, on l'a vu, Corneille avait besoin d'entendre le message de Dieu pour être sauvé. Et donc on va lire ce deuxième passage, on va commencer au verset 34. Entre les deux, Corneille a expliqué tout ce qui lui arrivait à Pierre, parce que lui il ne l'avait pas vu. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour t'écouter, pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Lui, qu'ils ont tué en le clouant sur la croix, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, non pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des morts et des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre, que juif, furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur des non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébraient la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous tous ?» Tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Voilà le message de Pierre et puis les effets du message de Pierre. Voilà, si vous pouvez avoir de tels effets ce matin. Mais voilà, c'est le Saint-Esprit qui agit. Hein. Au cœur de ce passage, au cœur du livre des Actes, il y a ce message de l'Évangile, ce message de Jésus-Christ. Et on a tous, pour beaucoup, on a entendu déjà parler de Jésus, peut-être un peu comme d'une légende, voilà, les belles histoires qu'on nous raconte quand on est petit, peut-être un peu comme Robin des Bois ou le roi Arthur, mais en fait, ça n'a rien à voir, c'est un personnage qui a vraiment existé. Et Pierre insiste beaucoup sur cet aspect-là. J'ai essayé de le souligner dans ma lecture, il commence par « vous savez ». Vous savez tout ce qui s'est passé en Judée, qui a commencé avec Jean-Baptiste, etc. En fait, ce sont des gens qui étaient contemporains des événements, de ce qui s'était passé avec Jésus. Donc il peut commencer par « vous savez ». Ils ont entendu parler, peut-être qu'ils connaissent des gens qui étaient là à une des distributions des pains, ou quelque chose comme ça, et ils ont entendu parler de ce Jésus qui était si bon, et qui faisait tellement de bien autour de lui, qui guérissait les gens, qui chassait les démons. Voilà, tous ces gens-là sont au courant. Ensuite, il insiste, nous en sommes témoins. Le mot témoin, il revient trois fois, je crois, dans ce discours. Nous en sommes témoins. Pierre a été témoin de la mort et de la résurrection de Jésus. Et on sait qu'il y a eu, Paul nous le dit, que Jésus a été vu jusqu'à plus de 500 hommes à la fois, dans 1 Corinthiens 15. Donc, tous ces hommes-là, ils l'ont vu. Et ils ne sont pas entendus sur un mensonge savant. En tout cas, si c'est le cas, ils sont quand même allés jusqu'à mourir pour beaucoup pour ce mensonge, si c'en est un. Clairement, ils sont convaincus d'avoir vu Jésus ressuscité. Et plus que ça, on en a parlé juste avant, Mélodie en a parlé, il y a le témoignage des prophètes. Il dit les prophètes aussi en sont témoins. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont parlé de ce que Jésus allait faire. Il y a beaucoup de petites De petits détails ou de choses énormes d'ailleurs qui ont été réalisées par Jésus. C'est un peu comme si c'était des prophètes, ils ont tous plus de 500 ans avant Jésus. Moi, c'est un peu comme si quelqu'un aujourd'hui accomplissait plein de choses qui avaient été prévues par Léonard de Vinci, je sais pas, François d'Assise, noté en scène de Canterbury, tous des gens, c'est même pas des gens qu'on connaît bien parce que c'est il y a 500 ans, c'est vraiment il y a très longtemps, qui parlent de choses qui se sont réalisées en Jésus. Alors c'est extraordinaire, en fait c'est unique. Hein. Et on peut se dire, bah, quand il y a un type qui arrive, ça y est, c'est le sauveur, tout le monde l'attendait, c'est lui, c'est le Messie, loin, hein, on parlait de celui qui est loin de Saint-Esprit, le roi de paix promis, est-ce qu'on l'a bien accueilli? Et non. Et non, en fait, on n'en voulait pas de cet homme. On n'en voulait pas. Les gens ne voulaient pas de cette lumière qui montrait que voilà, ça n'allait pas pour eux dans leur vie. On n'en voulait pas, on a essayé de le supprimer en le crucifiant. Ça révèle quel est le cœur des hommes. Le fait qu'on ne soit pas en paix les uns avec les autres, c'est tout le cœur de ce passage, ça montre qu'on ne déborde pas en paix avec Dieu. Jésus est venu pour corriger cela. Il est en fait, et ça a été prouvé par sa résurrection. Il est ressuscité, réveillé entre les morts. Ce n'est pas juste une image. Pierre y précise, on a mangé et bu avec lui. Il y a ce verset de Romains 4, verset 25. Il a été livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Plus loin aussi dans 1 Pierre 3, 18, Christ a aussi a souffert, et ce une fois pour toutes pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour les injustes afin de nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. L'Évangile, il est noué vraiment dans cette œuvre de Jésus. Jésus qui est mort et ressuscité pour nous, pour avoir la paix avec Dieu. Et ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Maître, ceux qui acceptent Jésus comme Maître de leur vie, c'est ça la foi en Dieu, en Jésus, sont ceux qu'on peut appeler les disciples de Christ. Alors, Corneille, sa réaction et celle de ses amis, elle est immédiate, et il proclame dans toutes les langues les merveilles de Dieu. Il commence à dire, waouh, c'est extraordinaire, et ce, dans des langues étrangères. C'est un miracle, c'est la manière dont le Saint-Esprit va se manifester pour eux. Alors du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est, mais est-ce que ça arrive à tous les chrétiens? Mélodie ne nous a pas raconté comment le Saint-Esprit est descendu sur elle, si c'est passé quelque chose de spécial, si elle l'a senti. En tout cas, c'est sûr, c'est clair et net dans le Nouveau Testament que tout chrétien reçoit le Saint-Esprit. C'est très clair. Alors, je vais vous citer juste, il y a cette notion de sceau de l'Esprit qui revient plusieurs fois dans Éphésiens, dans Corinthiens. À chaque fois, un chrétien, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Et s'il y a un verset qui est vraiment à retenir, Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, est-ce que ça veut dire que systématiquement, il va y avoir une manifestation spectaculaire comme ces langues étrangères? Non, ça c'est pas une promesse, forcément vous parlerez en langue étrangère, c'est dit que ça devait arriver et c'est arrivé. En fait, dans la Bible, ça n'arrive pas tant de fois que ça, c'est arrivé trois fois explicitement, et parmi ces trois fois, il y en a deux fois qui sont déjà passées. Il y en a une en acte 2, qui est bien connue, hein, où les disciples, eux, vont se mettre à parler de Dieu, des merveilles de Dieu dans toutes les langues. Et puis, il y a ce passage-là. Ça, c'est les deux premières fois. En fait, à chaque fois qu'il y a ces événements-là, au début, il y a Pierre qui est là et il vient dénoncer l'Évangile à un nouveau groupe. La première fois, c'est aux Juifs à Jérusalem. Alors, il y avait des Juifs de partout, mais c'est des Juifs de Jérusalem. Ensuite, il y a un épisode où, probablement, ça s'est passé aussi. Il est dit que l'Esprit va descendre sur les Samaritains, donc c'est au chapitre 8. Pierre va constater que l'Esprit descend sur les Samaritains et peut-être qu'à ce moment-là, ils ont parlé en langue. Et là, il y a ce passage, donc les Samaritains, ils étaient, on peut dire, à moitié juifs. Ils retenaient une partie de l'Ancien Testament et puis ils avaient des liens de parenté avec les Juifs. Et puis, on a ce passage où il y a des langues, des gens de nations qui se mettent à parler des langues étrangères avec cette manifestation visible de l'Esprit et Pierre qui est présent. Et ça, c'est une prophétie. Enfin, c'était l'ordre de Jésus en acte 1, verset 8. Vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ces trois passages, paf, à chaque fois, Pierre qui est là et qui atteste que le Saint-Esprit est déversé sur tous les hommes. C'est la réalisation On voit souvent des images de Saint-Pierre qui garde le paradis. Vous connaissez peut-être des blagues. J'ai essayé de trouver une blague de bon goût là-dessus, il n'y en a pas. Mais voilà, Saint-Pierre qui est au paradis, qui choisit qui est-ce qui va rentrer, qui est-ce qui va sortir. Ça vient d'un verset qui dit, c'est Jésus qui parle à Pierre dans Matthieu 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Et donc les gens se disent, bah, il a les clés du royaume des cieux, ça veut dire qu'il est le videur du paradis. Bon, ce n'est pas vrai. Le verset, il se réalise là. Il se réalise dans cette ouverture où Pierre est là pour attester que l'évangile s'ouvre à tous les hommes. Ça ne fait pas voilà, de Pierre... ça fait pas de lui un pape. Passons. Une fois qu'il a eu sa mission, d'ailleurs, il a pris un rôle un peu plus secondaire. Ensuite, on va voir plutôt Paul. Et puis, lors du concile à Jérusalem, en acte 15, c'est plutôt Jacques, le frère de Jésus, qui va présider. Ou alors, on peut considérer que c'est une décision collégiale. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas ce Pierre qui est au-dessus de tous les autres. Alors, Dieu nous réconcilie avec lui-même par son message, par Jésus-Christ. Et finalement, il n'y a rien qui vient de nous. C'est Jésus qui descend, qui meurt et qui ressuscite. Ça fait que, finalement, il n'y a rien qui fait vraiment une différence entre nous à la base. Il n'y a rien qui fait que... voilà, moi qui ai grandi en Ile-de-France, j'ai plus de raisons d'être sauvé que quelqu'un de, je sais pas, beaucoup plus jeune, beaucoup plus âgé, qui vit à un tel ou un autre endroit du monde. On est une église multiculturelle, c'est la volonté de Dieu. Et l'évangile est disponible à tous. On était en colère, on était sous la colère de Dieu, et du coup en conflit les uns avec les autres. Et maintenant, en Christ, on est réunis. Il y a ce verset de Galates, il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Dieu n'est pas partial. Et nous, en tant que chrétiens, il ne faut pas qu'on soit partial non plus. Alors ça demande à l'esprit de nous renouveler, à nous aussi de faire preuve de discernement, mais l'évangile, il doit être prêché à tous. Peut-être qu'il y a des gens auxquels vous dites « Ah, lui, non, lui, il n'a aucune chance ». Mais il n'y a plus ni riche, ni pauvre, ni esclave, ni libre, ni femme, ni homme, quand il s'agit d'annoncer le message de l'Évangile. Jésus est le seul chemin vers Dieu et on a tous besoin de lui. Alors en conclusion, on a vu ce très beau passage où c'est juste la rencontre de Pierre et Corneille, et en même temps, Dieu qui agit et qui fait quelque chose de grandiose. Et en fait, il se trouve que, voilà, en faisant un peu le bilan, je me dis, ça colle bien encore avec la vision qu'on a eue pour l'Église. Et je vais vous le citer. Nous voulons être des disciples de Christ, fidèles à sa parole, animés par son amour et passionnés pour l'annoncer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'histoire d'un homme, Pierre, qui est passionné pour annoncer Christ. Il est passionné et il est fidèle à la parole, parce que c'est voilà, les prophètes qui l'avaient prévu à l'avance. Et même quand la parole de Dieu va un peu contre ses préjugés, il obéit. Et malgré lui, ils s'ouvrent à aimer ses frères et sœurs non-juifs, et ils finissent, et ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Ça lui coûtait d'entrer dans sa maison, et maintenant il reste avec eux, avec joie. Il reviendra à Césarée par la suite, pour se reposer, ce Pierre. Une dernière chose, et je vous promets, je m'arrête. Dieu ne laisse pas sans réponse quelqu'un qui le cherche. Corneille cherchait sincèrement Dieu. C'est le verset que Mélodie a cité, que je ne suis pas capable de la citer de tête comme elle l'a fait. Dieu répond et ouvre à celui qui frappe à la porte, même s'il a l'impression d'être loin. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir et ressusciter pour tous ceux qu'il reçoivent, juifs et non-juifs. Ensuite, ils se font baptiser. Ce n'est pas « je me fais baptiser pour devenir chrétien », mais je demande le baptême parce que je suis chrétien. Je suis chrétien, donc je me fais baptiser. Et on a un parcours baptême aussi avec Mamie. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore baptisé, à vous renseigner. Aujourd'hui, Dieu appelle chacun dans cette salle, soit pour le servir davantage, pour aller peut-être vers des personnes auxquelles vous n'auriez pas pensé, ou peut-être simplement pour recevoir son pardon, avant qu'il ne revienne pour juger les vivants et les morts, comme il est dit aussi dans ce passage. J'écris courtement. Dieu et Père, c'est une grâce d'être là ce matin. C'est une grâce d'entendre ton message de grâce aussi. Et tu nous dis que Voilà, Christ est venu, Christ est mort, Christ est ressuscité pour nous, pour notre paix et pour la paix que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Seigneur, que nous puissions rentrer dans ta paix. Et si quelqu'un ce matin entend ta voix, sans que tu veux qu'il s'approche de toi, Seigneur, brise toutes les barrières qui l'en empêchent et fais-le faire ce pas vers toi. Qu'il puisse le confesser, le dire à ses amis, et puis progresser encore avec toi, et qu'on puisse savoir, nous, en tant qu'Église, l'accompagner, qui que ce soit, sans préjugés. Tout cela par ton esprit, Seigneur, parce que nos forces sont trop faibles. Amen. Thank you.